renouvelables, des applications, santé publique, eau potable, environnement médiatique,
développement durable, technologie, écologie,
économie,
droits humains,
démocratie,
respect de la vie,
éthique internationale, biodiversité,
pollution, paix.
Parce que pour faire avancer les idées, il faut entre autres les brasser. Cette semaine, l'Anélarium environnemental pour vous divertir, mais surtout, on l'espère, vous informer. On commence par une revue de l'actualité, revue 13, extensive comme d'habitude, où on parle d'énergie nucléaire, de fumier, de développement durable, du rapport de la vérificatrice générale, de carbone et de beaucoup d'autres choses. En deuxième partie d'émission, Mélanie Roussel, c'est notre rookie cette année, enfin une autre fille en studio avec nous. Mélanie Roussel donc nous parle de la convention d'Aarhus. La connaissez-vous? Mais il faudrait peut-être... Et bien sûr, on termine avec nos coups de cœur, coups de masse et au calendrier de la semaine. Peut-être des petites suggestions de lecture ou des liens à découvrir. Sofiane Legendre au micro, à l'animation, bien entendu, en compagnie de l'équipe Bionique. Et j'ai nommé cette semaine Patrick Bonin ainsi que Nicolas Milo. Messieurs, comment allez-vous?
Très, très bien.
Oui.
L'homme bionique en toi, ça qu'on entendait, hein?
Ça, c'est l'homme de 6 millions, c'est pas
mal. Ah, et qui se joint à notre équipe bionique, enfin une voix féminine pour venir agrémenter tout le reste. Mélanie Roussel, bonjour et merci d'être là avec nous.
Bonjour.
Allez, on commence sans plus tarder, revue de presse, revue de l'actualité. Bon, devrais-je dire tout de suite en partant que Delirium Environnemental, en plus d'être une émission d'information en environnement, c'est également un site web qui se trouve au www.radiodelirium.net où est-ce que vous pouvez trouver l'ensemble des informations desquelles on vous parle, des liens vers les nouvelles, etc., etc., etc. Alors, on commence sans plus tarder. Le rapport de la vérificatrice générale est sorti cette semaine qui parle entre autres d'environnement. Patrick Bonin, tu as regardé ça pour nous. Qu'en est-il?
Environnement et développement durable, Joanne Gélina, la vérificatrice générale du Canada, on est maintenant à sa 5e année, donc à tous les ans, elle nous sort un de ses rapports toujours percutants, devrais-je dire, parce que la plupart du temps, en fait, comment ça fonctionne, c'est que la vérificatrice générale choisit quelques sujets, encore une fois, cette année, elle a choisi plusieurs sujets, et la plupart du temps, on a des constats assez déstabilisants en termes de résultats du Canada en implantation de développement durable ou, si vous voulez, en protection de l'environnement. Et cette année, bien écoutez, un constat s'impose, selon elle, le gouvernement fédéral souffre tout simplement d'une incapacité chronique à mener ses propres initiatives à terme. Il prend le départ, mais traverse rarement, sinon jamais la ligne d'arrivée. Voici donc le thème du rapport de cette année. N'est-ce pas magnifique? Et tout le long du rapport, on passe...
Mais c'est assez critique comme façon de présenter la chose, c'est-à-dire que justement, il est incapable, il est bon pour parler, mais quand vient le temps d'agir, il n'a pas ce qu'il faut pour le faire.
C'est exactement ça. Ce rapport est remis à la Chambre des communes. Et là, on en débat, et évidemment, un gouvernement minoritaire en élection, ça risque de faire de plus grandes vagues qu'un gouvernement majoritaire. Et il y a quand même eu certaines petites houles, pourrons-nous dire, à l'Assemblée ou plutôt à la Chambre des communes. Et évidemment, c'est toujours dans un contexte aussi où le gouvernement, grâce au NPD, va avoir 800 millions, presque 900 millions même, je crois, à dépenser en environnement, dépenser intelligemment. Donc, vont sûrement se servir de ça pour, si vous voulez, mettre des diachylons sur les nombreuses plaies à travers ce rapport. Et peut-être, je devrais en amorcer, en aborder quelques-unes.
Oui, en fait, c'est ça. Habituellement, le rapport à la vérificatrice est toujours séparé en chapitres par thème qu'il aborde. Je sais que notamment, on parlait cette année de biodiversité en disant on est bien bon en parole et très mauvais en action. Outre la biodiversité, quels sont les thèmes qui sont abordés par le rapport de la vérificatrice?
Bien, on parlait d'eau potable et de santé. Vous savez, l'eau potable, c'est pas nécessairement de... En fait, c'est pas de législation fédérale. Par contre, c'est de législation fédérale au niveau des installations gouvernementales, également au niveau des Premières Nations et du transport. On parle de trains, d'avions. Et là-dessus, on se rend compte que, oh ma foi, assez accablant. Ici, on a un demi-million de Premières Nations qui auraient justement des risques au niveau de la salubrité de leur eau potable et c'est pas des
petits chiffres
de personnes, bien sûr, oui, excusez-moi, c'était pas de doigts, mais bien de personnes, donc tout simplement parce qu'il y a une absence de réglementation. Au niveau de l'eau potable, on ne vérifie plus de l'eau potable au niveau des transports aériens dans les avions passagers, tout simplement pour une question financière, n'est-ce pas impressionnant quand même? Et par la suite, toujours dans le domaine de l'eau, un petit peu plus vaste au niveau de la gestion des océans, océans. On se rend compte que le Canada avait identifié entre 98 et 2013 sites d'intérêt dans les océans, donc des sites d'intérêt à protéger. Il n'en a protégé que deux jusqu'à maintenant. Donc
Blame.
Ça, oui, ça en effet, pas vraiment magnifique. Je vous passe les parcs, sinon pour dire que parmi les parcs qui ont été vérifiés, plusieurs n'ont pas de plan de suivi justement de l'intégrité écologique de ces plans, de ces parcs-là. Tu l'as mentionné tantôt, Sofiane, au niveau de la biodiversité, la protection de la biodiversité, c'est probablement le chapitre qui fait le plus mal au Canada, parce que le Canada a ratifié en 1992 la Convention sur la biodiversité. Et malgré cela, c'est la troisième vérification de la vérificatrice générale. Et on se rend compte que justement, le Canada n'a pas de plan pour suivre de façon scientifique l'évolution de la conservation de la biodiversité sur son territoire. Donc c'est complètement affolant de savoir justement que le Canada, un pays riche monétairement parlant, ne va nulle part avec ça. Et peut-être parler en finissant au niveau du gouvernement même. Donc évidemment, le gouvernement, c'est probablement le plus gros acheteur au Canada. On parle de 13 milliards d'achats. Là, on parle tout ce qui est fourniture pour l'alimentation de cette grosse machine.
Il n'a toujours pas de politique d'achat équitable, responsable, etc.
D'approvisionnement écologique, entre autres. Je pense qu'on n'est même pas rendu encore à parler d'équitable. Donc malgré 10 ans de promesses politiques, à savoir, allez-vous finalement avoir un approvisionnement écologique? Eh bien non, encore une fois, recaler le gouvernement à ce niveau. Au niveau des plans de développement durable, c'est bien beau, les ministères en ont, mais on n'en a pas un global pour le Canada. Donc, une autre critique de notre amie, oui, on peut la considérer comme une amie parce qu'elle travaille très bien, Mme Joanne Gélina. Et sinon, peut-être terminer par les causes profondes. Pourquoi, dans le fond, le gouvernement, selon Mme Joanne Gélina, ne fonctionne pas en termes d'application du développement durable? Eh bien, on se rend compte que les leaders gouvernementaux ont tout simplement tendance à s'engager, mais ne mettent pas les ressources pour appliquer justement leur engagement. Donc, on dit on va le faire, mais on ne se rend jamais à la ligne d'arrivée. Les sous-ministres, sous-ministres adjoints, soit les hautes têtes pensantes dans les ministères ne sont pas redevables, donc pas responsables, justement, si ça ne s'applique pas. Au niveau, le gouvernement, tout simplement, n'est, comment dire, une guerre de clochers ou en vase clos, donc on ne se parle pas. Et finalement, on essaie de réinventer la roue au lieu d'y aller avec des petites choses faciles. Tout ça pour dire qu'Einstein avait raison probablement en disant qu'on ne règle pas les problèmes auxquels on fait face en les résolvant. Là. Et qu'est-ce qu'il disait Einstein? On revient après la pause parce que
c'est lui qui disait que quand on a un marteau dans la tête, on voit tous les problèmes en forme de clous. Ça vient pas de moi, cette citation-là.
En fait, il est cité en disant « Les grands problèmes auxquels nous faisons face ne peuvent être résolus en suivant le raisonnement qui a contribué à les créer. » Donc, c'est cité dans le rapport et ça dit...
On avait bien ri là-dessus parce que un jour, je l'avais cité en anglais, puis Nicolas m'avait repris en disant « On sait bien qu'Einstein parle anglais. » Merci beaucoup, Patrick Bonin, de nous avoir parlé et d'avoir lu pour nous en diagonale. Au moins, je l'espère. Non, mais merci d'avoir passé à travers le rapport de la vérificatrice générale. C'est un gros document pour ceux qui veulent s'en informer. Le lien sera mis directement sur notre site Internet au www.radiodelirium.net. Sachez qu'une fois que vous êtes là, vous pouvez accéder aux différents chapitres, justement par chapitre, selon vos thèmes d'intérêt. Alors, au retour, on poursuit. On vous parle d'énergie, notamment d'énergie nucléaire. This is it. De retour à Delirium environnemental, on poursuit la revue de presse, revue de l'actualité. On vous parle d'énergie, sujet à la mode s'il en est un. C'est pas une grosse surprise, sachez-le. On parle d'énergie nucléaire. Nicolas Milo, tu vas peut-être pouvoir m'expliquer pourquoi on a tellement parlé d'énergie nucléaire ces dernières semaines. En fait, cette dernière semaine, notamment des émissions de télévision ont fait des débats à ce sujet-là, mais aussi un cahier spécial dans le Devoir au sujet de l'énergie nucléaire.
Mais vous savez, à Montréal, à la fin novembre, début décembre, c'est la conférence des partis suite au protocole de Kyoto qui arrive. Première conférence post-entrée en vigueur de Kyoto. Et là, les sommités internationales en termes de climat cherchent à gauche et à droite des façons de rencontrer les objectifs du protocole de Kyoto. Et on s'aperçoit que des solutions qui, il y a 30 ans, avaient été rejetées par les groupes environnementaux, les groupes citoyens, refont surface parce qu'elles permettraient peut-être de solutionner le problème précis des émissions de gaz à effet de serre.
Tout en en créant d'autres.
Et il y a également une autre bonne raison pourquoi on en parle beaucoup de ce nucléaire-là. Évidemment, c'est c'est la centrale Gentilly 2 au Québec, qui doit être réparée ou réfectionnée, je me souviens jamais du terme exact, justement du fait qu'au Nouveau-Brunswick, à Pointe-le-Pro, on a une centrale qui est un peu la jumelle de Gentilly 2, et ils ont décidé d'aller de l'avant, eux, avec la réfection. Et là, au Québec, on va justement assister à cette grosse décision-là. Est-ce qu'on continue ou on la ferme? Et ça, c'est pas fait.
J'ajouterais à ça, parce que j'ai pas entendu cette raison-là, mais il me semble aussi qu'il y a eu la levée du moratoire par le ministre Petitgros sur les essais nucléaires en Inde ou quelque chose comme ça.
Oui, ben dans le fond, le gouvernement canadien avait posé un moratoire sur toute transaction potentielle dans le domaine du nucléaire avec l'Inde, à cause qu'on soupçonnait l'Inde d'y aller à des fins non pacifiques. Mais là, on a levé ce moratoire-là parce qu'on se rend bien compte qu'avec le protocole de Kyoto, le fait que des pays émergents comme la Chine et l'Inde devront inévitablement rencontrer un jour ou l'autre ces objectifs-là, le nucléaire est une voie importante. Pour vous mettre un peu dans le bain, en 2003, il y avait 439 centrales nucléaires en service autour de la planète. Mm-hmm. On en prévoit en Chine, d'ici 15 ans, 40 de plus. Et pour vous dire, la puissance que ça avait, c'est au-dessus de 360 000 mégawatts. Donc, la production énergétique du Québec par année était d'un peu plus de 35 000 mégawatts. Donc, c'était 10 fois la production du Québec. Et là, ce qu'on nous dit, eh bien, et ce qui est assez troublant aussi, c'est de voir l'espèce de dogme qui entoure toutes ces discussions-là sur le nucléaire, parce que ça met certains concepts comme étant fondamentaux et assurés. Par exemple, on doit nécessairement croître au niveau énergétique. Ça fait partie du discours. Il n'est absolument pas question de diminuer notre consommation d'énergie autour du monde. On en parle quand vient le temps de parler d'efficacité énergétique, mais rapidement, on se rend compte que globalement, on ne vise pas ces choses-là. Donc, le nucléaire devient une avenue intéressante dans le cadre du protocole de Kyoto, car on l'a dit propre, elle n'émet pas ou peu de gaz à effet de serre.
Tu soulèves là un problème qui me semble important. Moi, dans les choses qui me tannent un peu, justement, quand on parle de la recrudescence du nucléaire, c'est encore une fois la polarisation du débat, c'est-à-dire que on dit c'est soit le nucléaire ou soit le thermique ou le charbon. Puis moi, j'ai l'impression que c'est comme un faux débat de dire c'est l'un ou l'autre ou les deux. Mais d'après moi, c'est aussi un faux débat, oui, parce qu'il y a plusieurs centrales nucléaires aux États-Unis. C'est un faux débat dans le sens où est-ce que c'est pas nécessairement nucléaire ou charbon ou thermique. Ça pourrait pas être plutôt, pourquoi pas, ou éolien ou photovoltaïque et ou, j'ai pas, marée motrice ou je ne sais trop quoi. Mm-hmm. Donc, j'ai l'impression qu'on passe rapidement, justement, et que pour le nucléaire également, il y a des gros lobbies qui poussent pour vendre leur dispositif.
Ce qui est un petit peu attristant aussi, c'est de voir que, la semaine dernière, les membres du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, se réunissaient pour justement essayer de voir les pistes de solutions et que, même si c'est pas la première, même si ces gens-là reconnaissent que l'efficacité énergétique, l'éolien, les énergies renouvelables sont les moyens privilégiés, on mentionne le nucléaire comme étant...
Ça vous semble problématique, le nucléaire? Vous, Patrick Bonin, Nicolas Milo?
Ben, personnellement, ce que je trouve qui fait complètement défaut, c'est qu'on se dirait qu'en vertu des problèmes qui sont liés au nucléaire, c'est-à-dire les déchets que ça produit, des déchets radioactifs, qui prennent des milliers d'années à se décomposer, et puis on en parlait un peu avant l'émission, on disait, ouais, mais c'est pas toute la partie des déchets qui va prendre 10 000 ans ou 100 000 ans à se décomposer, mais quand même, si une partie des déchets prend 500 ans, 1000 ans, c'est un horizon qui est tellement lointain au niveau politique que, dans le fond, il devient pratiquement plus important dans le fait d'en parler. Donc, on repousse ces problèmes-là, non pas à nos enfants, non pas à nos arrière-petits-enfants, mais à une génération qui est tellement loin que, dans le fond, on l'évacue rapidement. Et là, ce qui prend le plancher pour, en termes d'arguments contre nucléaire, et là, on ne parle pas de la part des groupes environnementaux, car les groupes environnementaux vont être les premiers à se lever pour dire qu'il y a des déchets nucléaires, qu'on ne peut pas remettre ces problèmes-là à nos générations futures. Mais le problème qui est soulevé par le nucléaire, c'est davantage le terrorisme, des questions de sécurité et non pas celles d'environnement.
Évidemment, lorsqu'on parle du nucléaire, il ne faut pas se le cacher que le Canada est un producteur de réacteurs nucléaires, donc a tout intérêt à vendre c'est probablement d'ailleurs ce pourquoi il a levé ce moratoire-là avec l'Inde en voulant en vendre éventuellement. Mais bien sûr, toute l'industrie du nucléaire est énormément subventionnée. Donc, à quelque part, on subventionne et ça coûte très, très cher. Juste par exemple, en Ontario, pour une petite réfection, on parle de 400 millions au sein d'une simple centrale. Donc, c'est très, très cher. C'est de l'argent qu'on n'investit pas justement dans des énergies renouvelables. Et évidemment, il faut qu'on pense aussi aux réserves d'uranium. Là, ce carburant-là, nucléaire, c'est pas infini non plus. Mm-hmm. Là, on parle de réserves de l'ordre de quoi? De 40 ans? J'ai pas le chiffre exact, là, mais c'est pas... on fait pas long feu avec 40 ans.
Les coûts sont vraiment dissuasifs. Quand on regarde comment, justement, Gentilly, ici, a dépassé les coûts au niveau de l'entretien pour la réfaction, etc., je veux dire, on l'a dépassé, doublé, triplé, quadruplé les coûts d'opération.
Mais ce qui arrive en même temps, c'est que là, on arrive à une période de l'histoire où, étant donné la flambée des prix du pétrole, le coût du nucléaire ne devient plus si dissuasif que ça. Et là, là, économiquement parlant, l'option devient intéressante. Mais ce qui est important de soulever, et au moins il y a des personnes qui pensent à des trucs comme ça, entre autres le MIT, le Massachusetts Institute of Technology, qui sortait un papier la semaine dernière qui disait que, bon, malgré tous les avantages que ça a, on oublie de nombreux coûts dans celui du nucléaire. Comme, par exemple, la menace terroriste, on en dira ce qu'on en voudra, on est d'accord ou pas, ne reste que faire une centrale nucléaire, c'est aussi ajouter des coûts à la sécurité nationale. C'est aussi ajouter des coûts en termes de sécurité environnementale.
Oui, parce que les sites d'enfouissement ne sont souvent pas sur les lieux où est-ce qu'on produit l'énergie nucléaire et donc on doit transporter sur de très longues distances. J'ai vu qu'aux États-Unis, ils avaient ouvert un site. Là, ils étaient tout contents d'ouvrir un site qui va être capable de stocker les déchets seulement pour 2 ans. Donc, ils ont un gros l'équivalent des déchets pour 2 ans.
Il va être plein par la suite.
Et donc, après 2 ans, il est plein. Donc, c'est une question qui se repose encore. Où est-ce qu'on va aller enterrer tous ces déchets-là?
Les sites, présentement, pour ce qui est des États-Unis, c'est des États comme le Nevada, le Nouveau-Mexique qui se proposent. Bref, qui accepte de jouer le rôle de lieu d'enfouissement, alors que les lieux où est-ce qu'on a besoin en majorité de cette énergie-là, c'est-à-dire la côte est américaine, le Midwest où est-ce que le cœur industriel est, ces États-là sont rapidement mobilisés. Non, il n'y a pas question que ça s'enfouisse chez nous. Donc là, on peut se dire, nous, en tant que Canadiens, qui avons l'habitude d'accepter les déchets du Sud, comme, mon Dieu, on accepte la grippe en hiver, bien, c'est-à-dire qu'on va se lever un matin avec des déchets et chez nous qui vont traverser la frontière, et sans doute que l'ALENA va faire en sorte qu'on ne pourra même pas après ça se revirer de bord pour dire non.
Exactement. Et la plupart des déchets restent sur place pour l'instant, donc sont mis dans des piscines, justement en attente de savoir où on va les mettre. Donc les coûts sont même pas encore engagés pour le remisage de ces déchets. Ils n'osent même pas, exactement. Et là, il y a également toutes les Premières Nations, parce que vous savez, on peut éventuellement enfouir ça dans le bouclier canadien, ou du moins ça s'est parlé beaucoup. Il y a toutes les Premières Nations qui voient justement l'évolution du nucléaire et qui se font de plus en plus approcher pour, en échange d'argent, pour enfouir ça sur leur Donc, on ne rentre pas dans le débat des Premières Nations et tous les problèmes qu'ils ont eus, mais c'est clair qu'il y a des grosses questions qui se posent au sein de ces communautés-là aussi.
Merci beaucoup de nous avoir parlé de ce sujet qui me semble tout à fait important et déterminant, justement, de prendre de grandes décisions dans ce sens-là ou dans un autre sens, espérons-le. Tant qu'à moi, c'est ça, espérons-le. Pour ceux qui voudront s'informer plus amplement, on vous mettra quelques liens, justement, pour vous informer sur, entre autres, la durée de vie des déchets. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête quand on réfléchit à l'option nucléaire. Au retour, on poursuit, on vous parle encore d'énergie. Que voulez-vous, c'est central, l'énergie, c'est important. Entre autres, le palmarès des provinces canadiennes de la Fondation David Suzuki qui vient de remettre un rapport justement où est-ce qu'il dresse le palmarès. Et également, on vous parle de cette belle solution de bout de tuyau, la séquestration du carbone.
Palmarès, bien sûr, par rapport à la lutte au changement climatique.
Ah, excusez-moi, c'est Valérie Gâteau. On poursuit la revue de presse, revue de l'actualité à Delirium environnemental. Je vous rappelle que vous pouvez trouver l'ensemble des nouvelles desquelles on vous parle et plein de liens passionnants au www.radiodelirium.net. La Fondation David Suzuki, pour ceux qui ne la connaissent pas, David Suzuki, un biologiste moléculaire de formation qui appartient à une grande fondation qui fait The Nature of Things, en tout cas un environnementaliste bien connu. Si vous ne l'avez jamais vu, il s'en vient dans le cadre des conférences Alerte au climat qui vont avoir lieu, organisées entre autres par Équiterre, qui vont avoir lieu avec Hubert Reeves au Palais des Congrès à la fin du mois d'octobre. Ça risque d'être passionnant. Si vous l'avez jamais vu, David Suzuki, ça vaut la peine de se déplacer. Donc, sa fondation, qui fait un gros travail de recherche, un gros travail de fond, vient de sortir le palmarès des provinces canadiennes dans l'atteinte, à la poursuite des objectifs du protocole de Kyoto. Le Québec n'est pas en reste, mais ce n'est peut-être pas l'une des meilleures provinces.
Peut-être juste mettre les 3 critères principaux sur lesquels se sont basés cette étude-là. En fait, on parle des émissions de gaz à effet de serre des provinces. Évidemment, on parle des plans d'action pour la lutte contre les changements climatiques. Et on parle également de tout ce qui est les efforts antérieurs des provinces.
Et la première province, mesdames, messieurs, le grand gagnant, ça commence par un M.
Manitoba!
Oh, félicitations, vous connaissez bien votre Canada, c'est un double quiz. Eh bien oui, Manitoba, première position, en fait, c'est simplement justement pour leur force ou leur vraiment de forte réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Et entre autres, ils sont présentement en train de faire tout un... de l'éducation, plutôt de l'entraînement pour des techniciens pour mettre beaucoup de systèmes de géothermie au Manitoba. Donc, on le répète pour les gens au ministère de l'Environnement et les gens au cabinet de M. Mulcair, ils mettent de la géothermie au Manitoba, ils sont les premiers. On le répète encore, ils mettent de la géothermie parce qu'on n'en a pas au Québec. Bon, mais on est quand même les deuxièmes au Québec ce palmarès-là.
Bravo!
Ouais, évidemment, c'est entre autres, et merci à la Coalition Québec vers Kyoto pour avoir mis ce roi de côté. C'est entre autres pour justement de miser sur l'énergie renouvelable, on parle des nouvelles appels d'éolien, et de également, et ça c'est encore une fois merci à l'avis de la régie sur tout ce qui a suivi le surroi, c'est de vouloir diminuer la demande énergétique, donc des efforts en économie d'énergie.
Mm-hmm.
Québec deuxième, et le troisième est
Île du Prince.
Ah, voilà, félicitations, Île du Prince-Édouard. Eh bien, parce qu'ils ont un projet ambitieux de faire que 100% de l'énergie provenant fabriquée sur l'île viendrait d'énergie renouvelable. Et on se souvient, entre autres...
Ça pourrait venir des patates. Tu peux faire marcher des trucs.
C'est renouvelable. Tu peux sûrement faire de l'essence biologique, biodiesel, je m'en allais dire, justement à partir de patates, d'alcool, vous
tout
savez.
Mais, en troisième position.
Mais c'est pas ça qu'ils voulaient faire, en fait. Il y a entre autres un projet pilote qui est super intéressant, qui est de produire de l'hydrogène à partir d'une source d'éolienne et on s'en servirait un petit peu partout. Ça, c'est les trois meilleurs.
Ok, qui est en dernière position?
C'est... bon, d'accord. Il y a des femmes dans la salle, eh bien oui, c'est l'Alberta qui nous déçoit encore une fois, et sa petite sœur qui s'appelle
la Saskatchewan.
Et également, en fait, leurs émissions montent en flèche et ils n'ont pas de plan d'action contre les changements climatiques.
J'ai eu l'occasion de discuter avec Dale Marshall de la Fondation David Suzuki qui me disait souvent que c'est aussi par des mesures très originales que les villes ou que les provinces arrivent à se distinguer, notamment en réduisant l'étalement urbain, parce qu'en d'autant de belles politiques et de belles façons de faire justement le développement urbain, ils empêchent que les voitures aient à rouler, se prennent dans le trafic, etc. Moi, je trouvais que c'était une façon intéressante de concevoir la chose, c'est aussi de voir comment ça peut être multifacette, les façons d'atteindre des objectifs du protocole de Kyoto.
C'est d'ailleurs le cas de la Colombie-Britannique qui, sans avoir en fait un dossier hyper reluisant, se démarque par justement ces mesures de protection au niveau des terrains agricoles et de l'étalement urbain pour le réduire.
Bien, merci beaucoup de nous avoir dressé ce portrait du palmarès des provinces canadiennes. Dans l'atteinte du protocole de Kyoto, des objectifs du protocole de Kyoto, c'est si compliqué. J'en profite pour vous dire que les gens qui roulent en vélo, dont Patrick Bonin qui nous a parlé de cette belle nouvelle, économisent en moyenne 4 300 $ par année parce qu'ils n'ont pas d'auto. De plus, ils ont des fesses d'enfer. Sachez-le, vous économisez sur votre gym et surtout, vous polluez beaucoup moins. Parlant de pollution...
En fait, on vous inviterait même à aller visiter cette nouvelle campagne qui est la campagne de transport durable du Centre québécois d'action sur les changements climatiques. Vous trouverez, ma foi, une panoplie de trucs, etc. pour faire votre petite part. Et évidemment, n'oubliez pas qu'il faut également mettre de la pression sur les gouvernements parce que eux aussi, il faut qu'ils agissent. Hein?
Absolument. Et tout ça, bien sûr, sera sur notre site Internet avec plein d'autres choses. On poursuit, on parle de pollution. Parlons justement de gaz carbonique. On veut faire la séquestration du gaz carbonique, c'est bien ça. Alors, on a une belle solution qui, ma foi, sonne un peu le bout de tuyau pour moi. Encore une fois, on va aller enfouir notre pollution. On va l'enfermer. C'est du gaz, mais on va aller essayer d'enfermer dans les croûtres terrestres. Croûtres, aviez-vous bien compris?
Ça, c'est profond.
Ça, c'est profond. Ça, c'est de la profondeur. La croûtre terrestre. Oui, Nicolas Milo, ça t'a découragé. Les mots semblent même te manquer.
Tout à fait. Il faut se rappeler aussi que c'est quand même une nouvelle excellente pour les milieux économiques, cette chose-là. Parce que jusqu'ici, la seule façon qu'on avait de réduire nos émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ce qui est important de souligner, ben c'est de réduire notre consommation de produits pétroliers, des combustibles fossiles. Mais là, étant donné qu'il n'y a pas que l'atmosphère, mais il y a le sous-sol, eh bien, on pourrait envoyer nos gaz à effet de serre en dessous, bref, plus dans l'air, fini les changements climatiques, la vie est belle, redirigeons le problème ailleurs, faisons surgir des grosses bubules de CO2 dans 150 ans, d'autres s'en occuperont.
Moi aussi, c'est l'impression que ça me fait, il me semble que c'est clair qu'à un moment donné, il va se lancer des gros pets.
C'est un petit peu plus subtil. Mais c'est clair que c'est quand même le groupe, on en parle souvent, le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, on se base souvent pour eux pour dire qu'il y a urgence, il faut agir. Donc, ce sont eux qui nous ont amené ce rapport-là. Donc, si d'un côté, on prend justement l'aspect alerte, il faut également qu'on regarde quelques solutions dans le cas actuel. Évidemment, c'est du bout de tuyau. Évidemment, c'est de récupérer au bout des cheminées et de renvoyer sous la terre. Mais c'est quand même une façon de réduire de façon substantielle les émissions de gaz à effet de serre dans une réalité où on en parle de plus en plus. Il y a urgence d'agir. Évidemment, ce qui est mentionné dans ce rapport-là, c'est que ce n'est pas tout de capter le carbone. En fait, ça prend des mesures qui font en sorte que ceux qui émettent du carbone sont pénalisés, parce que sinon, ce ne sera pas avantageux pour eux. Donc, tout simplement parce que si ça ne coûte rien d'émettre du carbone, il n'y a personne qui va vouloir le capter, ce carbone-là. Donc, ça prend un prix élevé de carbone, entre autres ce qu'il y a présentement avec une bourse en Europe d'échange du carbone pour ceux qui émettent beaucoup, on achète à d'autres qui émettent moins. Mais ça s'insère dans une stratégie et évidemment, ça peut être tendancieux quand le Canada dit on va atteindre nos objectifs juste en faisant ça. C'est pas vraiment impressionnant, mais c'est pas tout noir, tout blanc.
Peut-être aussi pour vous expliquer en quoi ça consiste, cette technologie-là. Alors, voyez-vous, on a puisé plein de pétrole, on a laissé dans notre sous-sol plein de trous, dans le fond, où il n'y a plus de pétrole, et certaines personnes ont eu la brillante idée de dire, mais garochons-y donc nos problèmes, c'est-à-dire les gaz à effet de serre. Donc, on a par exemple une usine thermique, on aurait bâti le Suroît, par pur exemple.
Ou serait le Tracy.
En tant que solution de bout de tuyau, ça porte très bien son nom, mais c'est prenons le bout du tuyau, celui de la cheminée, et bien redirigeons-le vers le sous-sol de la Terre, envoyons-y nos gaz à effet de serre qui ne seront donc plus dans l'atmosphère et qui ne contribueront plus au réchauffement climatique.
Ça me semble passionnant comme solution. Ceci étant dit, j'aurais une question vraiment naïve à poser. Ne pourrait-on pas envoyer tout ça dans l'espace? C'est une question tout à fait naïve.
Faire une méga cheminée.
Exactement. Ou envoyer des gros ballons dans l'espace. On est capable d'envoyer
des ballons. Avec la nanotechnologie, on pourrait faire ça.
Ils ont déjà passé. Nous en reparlerons. En attendant, s'il y a un astrophysicien qui nous écoute, qui peut me dire pourquoi ma solution naïve n'est pas la bonne, s'il vous plaît, contactez-nous.
Parce qu'on y avait déjà pensé pour le nucléaire.
Ben
envoyer
oui,
nos déchets dans l'espace. On a réalisé que si Challenger pétait en vol, eh bien là, ça nous retombait dessus. Eh bien donc, il y avait beaucoup trop de risques face à ça.
Mais l'a-t-on réfléchi pour le gaz carbonique?
Faudrait voir.
Faudrait voir. On va mettre un homme là-dessus. Ou une femme.
Ouais, j'espère.
Commence par un C. Dis-moi, Kojima, est-ce que tu les vois? les couilles. Mais peut-être qu'un four solaire ira cuire ma tambouille. En attendant, je t'emberge. Moi, je veux que ma terre se relève. Et toi, t'auras ton procès quand on sera tous irradiés. Mais dis-moi, Kojima, qu'est-ce que tu feras quand pour le présent, il y aura plus de temps. La Kojima aime vos enfants. Elle fait des dons une fois par an. La Kojima aime vos enfants. Elle fait des dons. La Kojima aime vos enfants. Elle fait des dons une fois par an. La Kojima aime vos enfants. Elle fait des dons.
Une fois par an.
Ouh.